La réaction thermidorienne. La réaction à la dictature de la montagne ne se fait pas attendre. Ceux qui en prennent la tête, les thermidoriens, ceux qui ont fait tomber Robespierre le 9 Thermidore, sont réalistes. Ils poursuivent la guerre, sachant que tant que les Anglais la financent, il est inutile d'espérer signer une paix durable avec l'Espagne, la Prusse ou la Hollande. Le peuple tente de reprendre la main, en vain. Pendant ce temps, une jeunesse dorée et insouciante s'en prend aux Jacobins, auxquels elle fait la chasse, permettant le retour des royalistes, dont la révolte va être matée par un petit général sans le sou, Bonaparte.
Devinette. Qu'est-ce qui mesure un 10 000 000e de la longueur du quart nord du méridien de Paris ? La réponse vous est donnée par Borda, Lagrange, Laplace, Monge et Condorcet, qui, depuis 1790, sur une proposition de l'inévitable Talleyrand, ont concocté un système de poids et mesures qui va être décrété le 7 avril 1795 par la Convention. Il s'agit du mètre. Les savants de l'Académie des sciences ont travaillé pendant presque 5 années pour mettre au point le nouveau système qui va s'imposer, lentement, dans toute la France. Ar, hectare, gramme, kilogramme, litre, bar, autant de nouveaux mots qui vont remplacer la toise, le pied, le boisseau, la pinte. La convention, c'est aussi la création du Muséum d'histoire naturelle, par la Canal. C'est l'agrandissement du Jardin des Plantes. La convention, c'est encore la création de l'École polytechnique, de l'École des mines, du Conservatoire national de musique, de l'École des langues orientales. C'est, pour les éditeurs, l'obligation de déposer à la Bibliothèque nationale 2 exemplaires de chaque livre publié. C'est l'institution de la propriété littéraire par la Canal. Merci, monsieur la Canal.
La liquidation de la Terreur va se poursuivre pendant quelque temps. Le 16 décembre 1794, Carrier et ses complices sont guillotinés. Le 7 mai 1795, c'est Fouquier-Tinville qui monte à l'échafaud, tout étonné, ne cessant de répéter « Je n'ai pourtant fait qu'obéir aux ordres ». Sur le plan intérieur, la Convention thermidorienne vote le décret définissant la séparation de l'Église et de l'État. La liberté des cultes est étendue à tout le royaume, mais l'État n'en subventionne aucun, ne rémunère plus aucun ecclésiastique. L'entretien des églises, qu'on ouvre de nouveau, est confié aux communes. Tous les signes extérieurs et ostensibles d'un culte sont proscrits. Cette même convention thermidorienne organise l'enseignement primaire, crée une école secondaire dans le chef-lieu de chaque département. En mars 1795, les députés girondins sont réintégrés à l'Assemblée. Le peuple, lui, continue d'avoir faim. Il vient, comme au temps des montagnards, manifester bruyamment son mécontentement. Mais les temps ont changé. La Convention hausse le ton. Désormais, les attroupements sont interdits. Les insultes, les appels à l'émeute sont punis de prison, voire davantage. Il est bien fini le temps de la commune effervescente, turbulente. La rue n'aura plus la parole. Les terroristes sont désarmés. Les derniers robespierristes, Barrère, Billot, Collot d'Herbois vont être déportés à Oléron. Les 48 sections de la capitale sont regroupées en 12 arrondissements. Cependant, le 20 mai 1795, Paris a une nouvelle poussée de fièvre. Le mathématicien Rome, celui qui a créé avec Fabre d'Églantine le calendrier républicain, prend la tête d'une insurrection qui envahit encore la Convention. Avec 5 de ses compagnons, il constitue un gouvernement provisoire qui ne dure que quelques heures. Tous les 5 sont arrêtés, condamnés à mort. En prison, à l'aide de 2 couteaux, ils tentent de se suicider. 2 d'entre eux, dont Rome, réussissent. Les autres, blessés, sont conduits à l'échafaud. Les 20 et 21 mai, le peuple des faubourgs tente à nouveau d'envahir les Tuileries. Cette fois, ils sont reçus par les soldats de Murat, qui les repoussent et envahissent les quartiers constituant une menace pour l'ordre. Une certaine jeunesse, celle de la petite bourgeoisie marchande, de l'administration ou des métiers de la justice, sort d'une espèce de léthargie apeurée où l'avaient plongé les excès de la montagne. Ils ont leur quartier au Palais Royal, au Café de Chartres, actuellement le Grand Véfour. Leur mise est élégante pour contraster avec celle des sans-culottes qu'ils pourchassent avec un gourdin, leur pouvoir exécutif. Ils se poudrent et se parfument tout rageusement au musc, d'où ce nom qu'on leur donne, les muscadins. Les jeunes filles se promènent dans des tenues presque transparentes, ce sont les merveilleuses. Ils font aussi la chasse aux jacobins, dont ils obtiennent la fermeture du club. Les républicains sont menacés partout en France, c'est ce qu'on appelle la terreur blanche. À Lyon, Nîmes, Marseille, Montélimar, Toulon, Aix, de jeunes chasseurs de jacobins envahissent les prisons. Ils massacrent les partisans de la République qui viennent d'y être enfermés.
Qui était l'enfant du Temple mort le 8 juin 1795 ? Le 13 août 1792, un petit garçon de 7 ans, prénommé Louis-Charles, monte l'escalier de la grosse tour de l'enclos du Temple, qui appartenait au Xe siècle aux Templiers. Il suit ses parents, Louis XVI, roi de France, et sa mère, la reine Marie-Antoinette, ainsi que sa sœur, Marie-Thérèse, et sa tante, Madame Élisabeth. Ils y sont prisonniers. L'enfant, devenu roi de droit sous le nom de Louis XVII, le 21 janvier 1793, après l'exécution de son père, est séparé de sa famille le 3 juillet 1793 au soir. Sans quitter la tour-prison du Temple, il est confié au cordonnier Antoine Simon, chargé de républicaniser le petit citoyen Louis-Charles Capet. Loin du monstre parfois décrit, Simon, aidé de sa femme, s'attache à l'enfant, le distrait et tente de l'instruire. Est-ce parce qu'il montre trop d'intérêt pour le jeune Louis XVII qu'il est guillotiné en 1794 ? On l'ignore. Louis-Charles est alors logé sous la surveillance de 4 commissaires dans une petite pièce sombre et humide où sa santé se dégrade rapidement. Il souffre de tuberculose osseuse. Le lundi 8 juin 1795, vers 3 heures de l'après-midi, il rend le dernier soupir dans les bras de l'un des commissaires qui se relaie à son chevet, l'âne. Après la mort de Louis-Charles, le bruit court qu'une substitution ayant eu lieu, peut-être avec la complicité de Simon, ce qui expliquerait son exécution, le jeune roi serait toujours vivant. Plus de 30 Louis XVII se feront ainsi connaître au XIXe siècle, dont le fameux Noendorff, pseudonyme d'un certain Luis Capeto, nom fantaisiste de circonstances, horloger, marié aux Açores en 1803. Il semble cependant que Louis XVII, que ses surveillants vigilants n'ont jamais quitté d'un œil, on venait chaque jour 3 fois vérifier s'il était bien dans sa chambre et si c'était bien lui, est bien mort le 8 juin 1795 au Temple. Le 19 avril 2000, le prince Louis de Bourbon, duc d'Anjou, successeur des rois de France, annonçait à la presse que les analyses génétiques effectuées sur quelques fragments de cœur confirmaient que l'enfant de 10 ans, mort à la prison du Temple en 1795, était bien le fils de Louis XVI et de Marie-Antoinette. Dans les journaux, cette nouvelle fut lue par certains comme la dernière page d'un beau roman qu'il s'était bâti, avec cependant une autre fin. Le cœur du dauphin Louis XVII a été transféré dans la basilique Saint-Denis le 8 juin 2004.
En interdisant au peuple ces manifestations spontanées de mécontentement, la Convention veut endiguer les excès de la gauche extrémiste. Mais ne risque-t-elle pas de favoriser les extrémismes de droite ? C'est ce qu'elle tente de prévenir en décrétant le 30 août 1795 que les 2/3 des membres de la prochaine Assemblée doivent avoir été membres de la Convention. Évidemment, les royalistes sont ainsi écartés du pouvoir. Ils réagissent, les royalistes, dans toute la France. Dans la vallée du Rhône, en Bretagne, en Vendée, les émigrés débarquent à Quiberon, sans succès. À Paris, le 2 octobre 1795, les royalistes décident d'attaquer la Convention. Les muscadins, les incroyables et les bourgeois se sont joints à eux. Cette armée improvisée n'a qu'une vague idée de l'action violente. Barras, personnage plutôt louche, ancien ami de la comtesse de La Motte, ancien député du Var qui a joué un rôle déterminant dans la chute de Robespierre, vient d'être chargé d'endiguer cette poussée de fièvre. Il ne sait comment il va s'y prendre.
Une histoire d'amour. Elle s'appelle Teresa Cabarrus. Elle est née en 1773. Fille d'un richissime banquier madrilène, elle s'est mariée à 14 ans en France au marquis de Fontenay, puis s'en est séparée. En 1793, jugée suspecte, elle est internée près de Bordeaux. Craignant pour sa vie, elle demande au représentant en mission, Jean Lambert Tallien, une entrevue dans la cellule de sa prison. Elle a des révélations à lui faire. Ils passent la nuit ensemble. Le lendemain, elle s'installe chez lui. Elle va désormais s'employer à sauver des têtes. Tallien rentre à Paris, elle le suit. Robespierre la déteste parce qu'elle parvient à éviter la guillotine à certains de ses adversaires. Il la fait emprisonner. Tallien n'ose s'opposer au tyran. Jusqu'au jour où Teresa, le 7 Thermidor, lui envoie un billet où elle lui annonce qu'elle va être exécutée le 9. Elle l'accuse de lâcheté. Que fait Tallien ? Il provoque la chute de Robespierre le jour prévu de l'exécution, le 9 Thermidor. Le 11, Teresa sort triomphalement de prison. Elle devient, dans ses robes légères, la reine du Paris insouciant. On lui donne le nom de Notre-Dame de Thermidor. L'histoire, c'est si souvent une histoire d'amour.
C'est alors qu'il pense à un jeune général sans le sou, un petit Corse, Napoléon Bonaparte. Le 5 octobre 1795, 13 vendémiaire de l'an 4, la Convention est entourée par les forces armées. Joachim Murat, sous les ordres de Bonaparte, s'empare des canons restés dans la plaine des Sablons et qui vont servir à repousser les émeutiers. Le dernier îlot de résistance se situe à l'église Saint-Roch. Il faut tirer à bout portant sur les récalcitrants, enlever une barricade à la baïonnette. Mais le soir, l'ordre est rétabli, la République est sauvée. Grâce au petit général, devenu aux yeux du peuple, le général Vendémiaire.
La paillonnée. Sous les arcades du Palais Royal, depuis le 15 septembre 1795, un petit général erre, l'âme en peine. Son visage de jour en jour jauni, pâli, il a faim, il n'a plus rien à manger. Ses vêtements sont élimés, il n'a plus un sou. Il tente de se faire inviter dans les salons à la mode pour subsister. Il a des idées noires et certains soirs même, une dangereuse mélancolie l'envahit. Il a été radié de la liste des généraux employés par le comité de salut public. Pourquoi ? Parce qu'il était le protégé du frère de Robespierre. Le petit général n'est pas si petit que cela. Il mesure 1,68 m. Ses ancêtres habitaient l'Italie, en Toscane. Ils sont venus s'installer en Corse, cette île devenue française en 1768. Le petit général, qui n'est autre que le petit caporal, vous l'avez deviné, est né à Ajaccio le 15 août 1769. C'est le deuxième des 13 enfants de Charles Bonaparte, un avocat au Conseil supérieur de Corse, et de Marie Laetitia Ramolino. Ils lui ont donné pour prénom Napoléon. Napoléon, enfant, est d'un tempérament plutôt sombre, mais plein de fougue. Il est volontiers querelleur. Il vient en France faire des études au collège d'Autun, en compagnie de son frère Joseph, leur père ayant obtenu une bourse d'enseignement. À son arrivée à Autun, en décembre 1778, Napoléon devient vite une curiosité pour ses camarades. Il ne parle presque pas français et répond par un curieux « Napoléone » quand on lui demande son prénom. Il est alors surnommé « La Paillonnée ». À 11 ans, il est inscrit à l'école militaire de Brienne, dans l'Aube, réservée aux enfants de la noblesse pauvre. Entré en 1784 à l'école militaire de Paris, il en sort l'année suivante. À 16 ans, il est lieutenant d'artillerie. Il se retrouve en garnison à Valence, puis à Auxonne, en Côte d'Or, où M. Pillet lui refuse la main de sa fille Maneska. Il envisage pour elle des parties plus prometteurs. Le lieutenant Bonaparte séjourne souvent en Corse, dont il aimerait devenir l'un des hommes importants. Mais il se brouille avec le nationaliste Paoli. Le 11 juin 1793, les Bonaparte doivent s'exiler précipitamment en France. Leur maison est détruite par les partisans de Paoli. Ils débarquent à Toulon, où les royalistes se sont révoltés, aidés des Anglais. Sous les ordres du général Dugommier, Bonaparte fait si habilement manœuvrer son artillerie que la manifestation est écrasée. Les Anglais quittent la ville le 18 décembre 1793. Bonaparte devient alors général de brigade. Il a 24 ans. Rayé de son grade par les Thermidoriens, il erre sous les arcades du palais royal lorsque Barras, qui se rappelle Toulon, pense à lui.